Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va reprendre notre méditation. Je vais faire quand même un petit récapitulatif. Je pense que ce serait bien. Alors, donc, Luc chapitre 4, aux quelques simples et courts versets. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voilà, ça c'était notre référence de la semaine passée, et nous allons encore aller un petit peu plus loin dans ce que nous avons appelé le jeûne agréé de Dieu. Pour faire un petit rafraîchissement dans nos mémoires, donc, c'est l'exemple de Jésus dans le désert, où nous avons remarqué avec moi, il nous est simplement dit qu'il a été conduit, poussé, emmené par l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre compréhension, parce que ce n'est pas Jésus qui a été lui-même, mais comme les verbes que nous avons sous les yeux, eh bien, l'affirment, c'est qu'il a été, en effet, là, eh bien, saisi par l'Esprit de Dieu pour se livrer à cet exercice spirituel qu'est le jeûne. Dans ce rappel, je dirais que ce n'est pas le jeûne. Le jeûne n'est pas un devoir religieux décrété. C'est pas parce que des instances religieuses ou une église ou un pasteur décrète qu'il y a un jeûne que c'est un jeûne pour autant. Ce n'est pas un moyen de purification de l'âme. On a cité des versets bibliques à l'appui. Alors à ce moment-là, si nous pensons que c'est ce genre de choses, eh bien ça annule complètement et totalement la perfection du sacrifice de Christ. Et je le saisis dans la foi. Ce n'est pas un outil de pression pour faire fléchir Dieu en disant « Je jeûne, je me tiens devant toi, alors Seigneur, tu m'exauces ». Ce n'est pas ça non plus. Le jeûne que l'on met en évidence est non, est nul et non avenu. À partir du moment où nous savons ce que Jésus nous enseigne dans le sermon sur la montagne, quand il est dit simplement, et vous connaissez ces paroles, « Quand tu jeûnes, ne sonne pas de la trompette », c'est-à-dire ne le dis pas, c'est pas la peine de dire à tout le monde que tu jeûnes, et de prendre un air défait, complètement contrit, en disant « Voilà, j'ai beaucoup souffert pour prier. » Alors à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien, Jésus le dira. Eh bien, ils ont leur récompense, la récompense des hommes, mais pas celle de Dieu. Parce que c'est tout simplement une forme hypocrite. Ce n'est pas pour montrer aux autres qu'on est plus spirituel, parce que l'on jeûne. Regardez, j'ai jeûné, je suis bien au-dessus des autres, parce que moi je jeûne. Alors là, ça reste dans la même veine, et Jésus sanctionne sévèrement ce genre de comportement. Le vrai jeûne, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, c'est une affaire et une histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est une démarche d'intimité avec le Seigneur. Je suis dans sa présence et j'attends qu'il me parle. J'attends qu'il me dise quelque chose, et peut-être il ne me dira rien. Mais en tous les cas, c'est un temps de retrait, de mise à l'écart, dans un monde qui est tellement agité, tellement troublé, où j'ai besoin de me reposer en Dieu. J'ai besoin de retrouver le ressourcement nécessaire, dans le calme et dans le silence. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui voit dans le secret est là, et il te donnera ce que tu as besoin. Nous avions parlé également qu'il était question de jeûner par nécessité de circonstances. Donc, peut-être une démarche circonstancielle. Le jeûne est un combat, avons-nous dit. Et c'est une arme dans ce combat. On y rencontre Dieu, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 4 il y a un instant, mais le diable n'y est pas loin. Alors il y a certainement des choses à faire attention, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'engage pas dans n'importe quelle manière, mais vous avez vu, quand Jésus est allé au désert, il a été poussé par l'Esprit, mais vous avez remarqué, et il fut tenté par le diable. Alors, il n'est pas question de mysticisme, d'ascétisme, qui sont des extrapolations de la foi et qui n'amènent à rien, qui sont des cultes des anges, comme Paul nous dira dans Colossiens, et une forme de mystification. Donc, je le rappelle, un chrétien, c'est quelqu'un qui a le cœur au ciel mais les pieds sur terre. C'est un homme réaliste. Pourquoi jeûner ? Alors, toute la Bible est là pour nous le confirmer. C'est un moyen d'expression. Je dis bien un moyen d'expression qui touche à la fois notre âme et notre cœur, notre intellect, si vous voulez, naturellement, mais qui est là la démonstration d'un besoin au niveau sentiment, au niveau émotionnel, et où le rituel dans le jeûne, le rituel, le traditionnel n'a rien à voir et n'a rien à y faire. Donc c'est une expression de sentiments forts qui correspondent à des périodes de crise, peut-être, ou de grands besoins de notre vie spirituelle de contact avec Dieu. Voilà. Et ce n'est pas parce que je décrète un jeûne la semaine prochaine que ce sera un jeûne agréé de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église va décréter un jeûne pour ceci et cela que Dieu... Voilà. Ça, ce sont des affaires humaines. Mais vous avez remarqué, je tiens à le dire, poussé, emmené, conduit par le Saint-Esprit. C'est autre chose. Le jeûne dans la Bible, avant de nous parler, on s'aperçoit que le jeûne, et j'ai regardé, le jeûne est absent de la loi de Moïse et du Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Il y a des jeunes qui jeûnent, mais vous ne trouverez pas de référence où il est question, dans la loi, où il est dit « jeûner ». Il est dit « prier », mais prier, on va le voir, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, je rappellerai que dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, le mot « jeûne » n'est cité que 20 fois. Vous vous rendez compte, c'est peu de référence, hein. À travers des centaines et des centaines de pages. Le verbe, le mot « jeûner » donc 20 fois, et le verbe « jeûner » 24 fois seulement dans toute la Bible. Jésus s'est élevé vigoureusement contre le jeûne de parade, ostentatoire, promulgué. Et nous voyons qu'il fera un véritable réquisitoire contre l'hypocrisie des pharisiens, parce que finalement, il faisait les choses avec un caractère rituel, au mobile, méritoire. Je jeûne, donc je vais être béni. Donc Dieu doit me bénir. L'obligation, à la limite, où Dieu doit fléchir devant mes prières, mes supplications, et qu'en raison de ce que finalement je vais faire, eh bien, Dieu ne va pas avoir le choix, il va être obligé de me bénir. Le mérite. On avait marqué la semaine dernière la notion de mérite, qui est une fausse doctrine au regard de la Bible et de l'Évangile. On ne mérite point, nous avons tout reçu par grâce. Alors on prend l'option du mérite, et toutes les religions fonctionnent sur le mérite, mais l'Évangile fonctionne sur la grâce, uniquement. La foi dans la grâce de Dieu. Alors qu'enseigne la Bible, c'est toujours dans le Réca, hein, qu'enseigne la Bible au sujet du jeûne ? L'esprit réel du vrai jeûne, nous l'avons, et là je vais vous conduire à tourner quelques pages de la Bible, qui me semble très évidente sur cette question, qu'enseigne la Bible au sujet du jeûne. Au chapitre 58, au verset 6 et 7, vous le retrouverez, je le lis, il est dit ceci, « Voici, c'est Dieu qui parle, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. » Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on coupe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le jeûne exprimé par Dieu. Et il est question de servir et d'aimer, ou d'aimer et de servir notre prochain, le vrai jeûne. Il y a des jeûnes particuliers, il y a des jeûnes personnels, des jeûnes collectifs, des jeûnes partiels, et puis des jeûnes totaux. Alors naturellement, tout cela, eh bien, c'est aussi dans la Bible, naturellement. Le jeûne devient collectif, parce que c'est souvent l'interpellation que l'on nous adresse. Le jeûne devient collectif quand plusieurs sont motivés par le même sentiment et le même mobile pour vivre en commun un temps fort de rencontre avec Dieu. Ce qui nous ramène naturellement aux autres. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce jeûne n'a pas le caractère de forcer ou d'obliger quiconque. C'est pas parce que moi je veux jeûner que je dois obliger mes frères et mes sœurs à jeûner. Ou que lorsque je décrète un jeûne, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais si je décrétais un jeûne, avec une lettre de convocation, vous devez être là de telle heure à telle heure, etc., etc. Non. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Dieu qui fait les choses, c'est moi qui les fais. Peut-être avec de bonnes intentions. Peut-être avec... Mais il faut savoir si c'est conduit et inspiré par l'Esprit. Tout est là. Parce que des jeûnes, on en a fait. Mais peut-être d'une manière qui bouleverse les idées reçues religieuses que l'on peut avoir sur le jeûne. Et c'est vrai que ça sort un peu de la norme, enfin la norme religieuse. Mais je crois que nous avons besoin aussi de ne pas tomber nous-mêmes dans une piété religieuse évangélique. Ce que nous critiquons, ce que nous avons jugé chez les autres, faisons attention que nous ne soyons pas nous-mêmes, finalement, eh bien, en train de faire la même chose. Si nous devons être motivés, c'est par l'Esprit de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu. Et non pas comme des moutons de Panurge, on fait parce que les autres font. Et là, ça peut devenir véritablement problématique. Donc il ne s'agit pas de forcer ou d'obliger quiconque. Le jeûne est libre et il est sans jugement de ceux qui s'en abstiennent. Il y en a qui ne peuvent pas jeûner parce que leur santé ne leur permet pas. Parce qu'ils ont des problèmes d'une manière ou d'une autre. Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas jeûner parce que pour eux, eh bien, la communion avec Dieu revêt une autre forme. On avait parlé la semaine dernière dans la même pensée de s'agenouiller, de mettre les bras en l'air, ou ceci et cela. Ce sont des techniques, mais que chacun ait la liberté de faire comme il entend, mais sans obliger les autres. C'est ça, le respect des autres. Alors, naturellement, je crois que tout cela est bien clairement défini. Nous allons le revoir d'ailleurs dans d'autres situations, d'autres versets. Je reviens sur une chose, c'est que le jeûne est observé circonstanciellement dans des temps de jugement. La Bible nous parle à certaines époques de l'Ancien Testament où le peuple d'Israël ou de Juda s'est retrouvé avec toute la hiérarchie royale et religieuse. Parce que véritablement, il y avait une conduite de Dieu, une forme de repentance. Il y a également la conduite dans le jeûne des afflictions d'autrui, pour un ami, un frère, une sœur, un enfant, des parents, quelles que soient les circonstances de grandes difficultés, où là, à ce moment-là, je peux vous dire que le jeûne est tout à fait naturel, on n'a pas envie de manger, on a envie de se tenir devant Dieu, et la nourriture est secondaire. Parce qu'on est tout à fait dans la conformité. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Servir à aimer les autres. Ce peut être également dans des temps où, de douleur et de détresse morale et personnelle. Enfin, morale et personnelle. Où là, je peux vous dire que finalement, il n'y a plus qu'une situation qui est devant nous. C'est de nous tenir devant Dieu pour crier vers lui. Et le jeûne se fait tout naturellement. C'est peut-être également un temps d'humiliation devant le Seigneur, en raison du péché, de faute, d'erreur, etc. Ce peut être également, eh bien, des souffrances physiques qui nous amènent à nous tenir devant Dieu, dans l'écart, à l'écart, dans l'éloignement peut-être des autres, parce que nous souffrons physiquement. Ce peut être également la méchanceté des hommes et la recherche de délivrance, lorsque vous avez des gens qui vous en veulent à votre vie, qui veulent vous détruire, qui veulent vous nuire. Alors à ce moment-là, Ce n'est pas de rendre coup par coup, œil pour œil et dent pour dent. Je crois que le recours qui nous est donné, c'est de nous tenir devant Dieu et de pleurer devant Dieu en disant « Seigneur, délivre-moi et secours-moi. » Et ce que le Seigneur ne manquera pas de faire, quoi qu'il en soit. Ce peut être dans le cas de soucis, de dangers, de fardeaux, dans et de l'Église. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui conduisent l'Église. Ou parfois, eh bien, devant des situations, il n'y a qu'une chose à faire. C'est pas de faire du remue-ménage, mais vraiment de nous tenir devant Dieu en disant « Seigneur, que veux-tu ? Quelle issue ? Quelle solution ?» Parce que l'Église est souffrante, parce qu'elle est malade, parce qu'il se passe des choses. Donc, c'est pour donner une petite configuration d'étendue. Jeûner est parfois présenté sous l'expression « humilier vos âmes ». Vous l'avez lu ça dans la Bible. « Humilier vos âmes ». Le jeûne n'est pas imposé aux chrétiens, je parle du Nouveau Testament, de façon formelle, mais il est conseillé d'y recourir pour donner plus de force à nos prières, notamment dans le cas de la famille et dans l'aspect conjugal. C'est pour ça que je le rappelle à chaque fois que j'en ai l'occasion, mes frères et sœurs qui êtes convertis tous les deux, priez donc ensemble tous les jours. Ce n'est pas superflu ce que je suis en train de dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 5, c'est une forme d'abstinence, hein, à différents égards. Il est dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps pour vaquer à la prière. » Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Là, nous sommes véritablement dans une abstinence. C'est vrai. Vaquez à la prière. Mais attention, vous pouvez y rencontrer certainement le Seigneur, vous y rencontrez sûrement le Seigneur, mais le diable, n'y restez pas trop longtemps, hein, parce que ça risque de terminer difficilement. Dans Matthieu, et nous reviendrons sur ce texte, parce que je sais qu'il pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais nous allons voir comment pouvons-nous le comprendre et comment la Bible nous donne de le comprendre. Dans Matthieu 17 et verset 21, vous allez reconnaître de quoi il s'agit. Jésus dira aux disciples, dans une circonstance de délivrance miraculeuse, il dira « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et vous verrez que c'est loin de ce que nous pensons très souvent. Jeûner, émotion motivée par l'âme ou par l'esprit. Si je me positionne dans la dimension de l'âme, mon jeûne sera religieux. Si je me positionne et je m'abandonne dans la dimension de l'esprit, mon jeûne sera spirituel. Et s'il est spirituel, il sera agréé de Dieu. Si c'est mon âme qui s'épanche et qui vagabonde dans tous les sens, alors à ce moment-là, ça sera religieux. C'est l'homme charnel. C'est l'humain, mais ce n'est pas l'homme de l'esprit. C'est autre chose. Et vous avez remarqué que toutes les religions sont sur la dimension de l'âme. La dimension de l'âme. C'est pourquoi il est important de revenir sur ces questions. Donc, esprit ou âme, et si c'est l'âme, ça devient un pseudo-jeûne, dont Ésaïe nous parle, et je retourne à Ésaïe, au chapitre 58, où nous étions tout à l'heure, et je lis les versets suivants. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est Israël qui dit ça à Dieu. Et que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Ben, ils se trompaient parce que c'est pas ce que Dieu leur demandait. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne où l'homme s'humilie ou humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que j'appelle un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Seigneur. Alors je crois que ça pose naturellement pas mal d'interrogations, parce que les choses sont données, elles sont reformulées. Et je crois que nous avons vraiment besoin de nous caler de plus en plus dans l'enseignement de ce que nous dit la Bible, de laisser peut-être un petit peu le chant des sirènes de ce que les hommes ont enseigné, théologie et philosophie religieuse et tout ça, pour véritablement nous tenir tout à nouveau, revenir tout à nouveau devant ce que la parole de Dieu nous dit, mais pas selon la lettre, selon l'esprit. Parce que vous savez que la lettre tue et l'esprit vivifie. Et parfois, nous avons besoin d'une petite correction dans nos idées reçues. Il y a le jeûne d'affliction. Le jeûne d'affliction, il est exprimé dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 34. C'est un tout petit passage. Jésus répond à une question de ses disciples. Il dira, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole, personne ne déchire un habit, enfin c'est la suite de tout cela. Mais c'était une question qui était posée. Une question qui a trait cette fois-ci aux difficultés, aux problèmes inhérents à la vie de l'Église. Le jeûne d'affliction. Tant que l'époux est là, réjouissez-vous. Mais le jour où l'époux ne sera plus là, eh bien vous allez pleurer et jeûner. Jésus faisait référence naturellement à sa présence terrestre avec ses disciples, mais après, pendant des siècles et des siècles, nous savons que l'Église va se retrouver non pas abandonnée, non pas orpheline, puisqu'il y a le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui va nous consoler de l'absence de l'époux. Mais néanmoins, il y aura des temps difficiles. Et nous voyons que le jeûne à ce moment-là, ce jeûne d'affliction, est une spontanéité commandée par des détresses et des fléaux du moment. Et on sait que par quelle tribulation et par quelle persécution l'Église, dans son histoire, eh bien, est passée. Et on s'aperçoit qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était véritablement de crier à Dieu, de jeûner et de prier. Il y a une autre raison de jeûner. Nous allons la voir maintenant dans Daniel, chapitre 9. Prophète Daniel, chapitre 9. Et au verset 3, alors je vais lire tout simplement verset 3, 9, 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession, vous pourrez la relire dans votre domicile, parce que c'est formidable la prière de Daniel. » Formidable. Ici, le prophète vient de découvrir que le temps est arrivé pour Israël de retourner dans sa patrie après 70 ans d'exil, de déportation. Nous sentons bien que le prophète est bouleversé et il décide de jeûner. Vous avez lu avec moi, il est dit à un moment donné, quand il a pris conscience que les temps allaient changer, mais c'est pas les hommes qui allaient faire changer les temps, c'est Dieu qui allait donner une nouvelle dimension à la situation malheureuse de servitude du peuple d'Israël, donc dans ce pays d'exil. Il dit, je tournais ma face et je me suis mis à recourir à la prière aux supplications en jeûnant. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Son jeûne est inspiré par une très grande émotion, parce qu'il a la sensibilité de l'esprit pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il s'aperçoit que le temps est arrivé où Israël va sortir de Babylone. Comme des siècles auparavant, par le truchement de Moïse, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Et Dieu a prévenu. La parole de Dieu qu'il est en train de lire, le prophète Daniel, le motive à jeûner pour l'accomplissement de cette volonté de Dieu. On remarque que son jeûne n'est pas la cause de l'exaucement de sa prière, mais sa foi dans ce qu'il a lu. C'est-à-dire dans ce qu'il croit. Parce que vous pouvez toujours lire la Bible. Si vous n'y mettez pas la foi, vous pouvez bien jeûner et vous pouvez bien faire n'importe quoi, ça restera lettre morte. Il n'y aura pas de réponse. Et là, nous voyons que la cause de l'exaucement que nous avons dans les versets suivants, c'est pas seulement sa prière, c'est pas son jeûne, mais c'est sa foi dans ce qu'il a lu et dans surtout ce qu'il a cru. Le verset 2, Il nous est dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé, par Jérémie, le prophète. Et ensuite, on reprend le texte, je tournais ma face et je priais Dieu. Pourquoi ? Les choses se sont passées comme ça, parce qu'il a lu et il a cru, et il s'est aperçu que le temps était arrivé. Et Dieu s'est servi de lui. On se sert souvent du jeûne pour dire, eh bien Seigneur, parle-moi, conduis-moi. Ben là, nous avons un exemple formidable d'un homme qui réagit dans l'esprit, qui va se laisser conduire par l'esprit, et que son jeûne sera vraiment un jeûne spirituel. Et avec l'exaucement, naturellement, qui sera la conséquence. Sa confiance est motivée. C'est pas un jeûne au petit bonheur la chance. Non, elle est motivée. La cause du jeûne conduit forcément à la prière, et son exaucement n'est pas la récompense d'avoir jeûné. Frères et sœurs, il faut que vraiment nous comprenions cela. Parce qu'autrement, nous tombons dans le méritoire. Nous sortons du cadre de la grâce, parce que Dieu donne ou qu'il ne donne pas, c'est une grâce de toute façon. Et ça, je crois que avec nos origines religieuses, nous avons du mal à nous défaire. C'est viscéral chez nous. Et on se bagarre contre ça. On revient toujours à la loi, alors que la loi, si véritablement elle est considérée dans la lettre, elle va nous tuer. Mais si véritablement, eh bien, elle est vécue dans l'esprit, elle va nous faire vivre. Et Dieu va nous exaucer, et Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, il ne faut pas voir une récompense d'avoir jeûné, mais d'avoir reçu la grâce de Dieu pour discerner la pensée divine et d'avoir cru à cette pensée. Merci Seigneur. Ben, ça a pas l'air de... Non, vous êtes pénétrés parce que je suis en train de... Ce que la parole dit, hein, c'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu, mais c'est vrai. On vit dans la grâce, mes frères et sœurs. On vit dans la grâce, et autant que je serai encore pasteur de cette église, vous allez l'entendre. Hein. Ah non, mais c'est vrai, parce que bon, le reste, on en est sorti. On en est sorti, on va pas y retourner quand même. Et on a souffert. On a souffert de ces conflits de conscience fait par des commandements humains, par des choses qui n'avaient que, finalement, eh bien, des décrets des hommes. C'est terrible, quand on voit les souffrances et l'accompagnement de ceux qui arrivent, quand on voit la souffrance qu'ils peuvent avoir, les tiraillements de conscience et les pleurs. Non, je me dis, le Seigneur nous a affranchis complètement et totalement. Et il faut vivre dans cette liberté. Daniel a été poussé, il a été conduit par l'Esprit. Et si nous sommes poussés de la même manière, comme Jésus, eh bien, ce que Dieu nous donnera, c'est que nous ne connaîtrons pas de jeûnes stériles et inutiles qui ne sont que des grèves de la faim, excusez-moi. Des grèves de la faim, il y en a tous les jours. Hein, dans le social, dans le politique, ceci et cela, mais nous, on ne va quand même pas faire le siège hein, du royaume, du trône de Dieu en disant « Je ne mange plus, Seigneur, alors tant que je ne mange plus, tu... Hein, bon, si tu veux que je meure. » Ce n'est pas du chantage programmé. Je suis un petit peu virulent, enfin je pousse un peu les choses. Hein. Je pousse un peu les choses parce que quelquefois les enseignements sur la question sont poussés aussi dans l'autre sens. Ah ouais, culpabilisant, meurtrissant. Alors on va aller encore plus loin si vous permettez. Et vous allez voir que ça prend d'autres dimensions. Le jeûne est un étrange et intense combat spirituel. J'en arrive à un premier exemple. C'est celui d'Élie le prophète. Un jeûne qui va être accompli dans une terrible détresse, et permettez-moi de dire, où l'on mange. Parce que vous allez voir que Élie l'a mangé. Vous connaissez ? Il n'avait pas amené son casse-croûte, hein, en disant « si j'ai faim, je mange ». Alors, 1 Rois, chapitre 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et ça, c'est pas des pilules énergisantes. C'est la manne du ciel. C'est le pain descendu du ciel. Et oui, c'est très très intéressant de voir comment ça se passe. Je parlais tout à l'heure qu'il a été confronté avec une terrible, une intense détresse. Et c'est même Dieu qui nourrit pour ne pas mourir. Et pour ne pas mourir, il faut que le prophète mange. Et là, on peut dire que c'est un jeûne quand même. Le mot n'est pas marqué, mais un jeûne de dépression. Anorexie ? Non, je ne crois pas, on ne va pas extrapoler. Mais il n'a pas envie de manger. Il n'y a qu'une chose qu'il veut, c'est mourir. Ça vous est jamais arrivé ? Oh oui. Quelquefois, on dit, ah non, ça n'existe pas dans le peuple de Dieu. Mais moi, je sais que ça existe. Et le Seigneur est là pour nous faire vivre. Il est là pour nous guérir peut-être de nos envies de mort. Parce que l'envie de mort, elle ne vient pas du Seigneur, elle vient de l'adversaire. Et à lui, il faut lui dire non. Je sais de quoi je parle. Similitude avec les 40 jours et les 40 nuits, hein, Élie, de Moïse au Sinaï, parce que c'est ce qui s'est passé aussi, et puis de Jésus dans le désert. C'est les... Mais le 40, la quarantaine, hein, c'est pas pour ça qu'il faut en faire une doctrine, hein. Rien à voir. C'est comme ça, tout simplement. Dans le cas d'Élie, jeûne ne veut pas dire abstinence de nourriture, mais isolement et mise à l'écart. C'est ça aussi l'aspect du jeûne. En dehors de tous les brouhahas, de tous les crépitements, de tous les tiraillements, de tous les cliquetis de guerre qui sont autour de nous, et de se mettre tout simplement à l'écart. Deux grands événements prodigieux précèdent l'expérience du prophète. Vous savez pourquoi il est en bonne éprime ? Parce qu'au départ, juste avant, il avait vu les prodiges de Dieu. Il y a Carmel et le retour de la pluie. Il est revenu là. Élie va descendre dans le gouffre de la dépression morale. Il va vivre une remise en cause du sens de sa vie. Et c'est alors que Dieu lui révèle un nouvel avenir et une nouvelle mission. Tu ne vas pas mourir, Élie. Tu as accompli sur le mont Carmel quelque chose de grand. Tu as prié pour que la pluie depuis 3 ans et demi qui ne tombait pas ait tombé. Elle tombe maintenant. C'est formidable, hein ? Sinon à ma parole. Et la pluie est tombée. Dis donc, pour un homme, c'est quand même quelque chose, hein ? Mais Dieu lui dit, il ne va pas mourir. Parce que vous savez que notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Tant qu'on n'a pas continué, qu'on n'a pas fini notre mission, on continue. Hein. Et même si on pense qu'elle est finie, il va lui dire maintenant, voilà, j'ai une nouvelle mission. Le chemin est long, il faut que tu manges. Et quelquefois, je pense que nous nous privons de certaines choses parce que nous comprenons les choses à l'envers. Ah Seigneur, je me mets là, dans cette situation. Le Seigneur lui dit, tu ferais mieux d'avancer. Hein. Tu ferais mieux de regarder devant toi au lieu de regarder derrière et de copier sur les autres. Parce que si vous prenez le modèle sur les autres, eh bien, c'est pas à vous. Et il n'y a rien de plus faux que de prendre le modèle sur les autres. Dieu ne nous a pas fait des clones. Et il nous a fait des récepteurs de sa pensée à lui. Parce que nous sommes uniques, tout simplement. Et nous voyons que c'est le jeûne du dépouillement, là, à ce moment-là. C'est un dialogue avec Dieu. Et il va recevoir de nouvelles forces. Puisque dans notre texte, et au verset 7, il est dit cette parole... L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le semain est trop long pour toi. » Alors il s'est levé, mangea et bu. Et avec la force que Dieu lui donna, eh bien il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Formidable, hein ? Quelle énergie ! Le deuxième exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de Daniel, où le jeûne qui a trait à la révélation des secrets de Dieu. Alors là, c'est pareil. Faisons attention, parce qu'il y a quelquefois parmi les enfants de Dieu des petits curieux qui voudraient savoir des choses que Dieu ne veut pas leur révéler. Dieu révèle sa volonté à ses prophètes comme il veut, quand il veut, c'est tout. Et parfois, il y a une curiosité malsaine en disant « Mais je voudrais savoir l'avenir de ceci, de cela, etc. » Alors, on a mis la clé sous la porte avec les cartes manciennes et tout ça, c'est pas pour faire la même chose comme Saül, vous savez, qui avait été consulté la prophétesse d'Endor, hein. Et il en est mort, hein, le pauvre. Alors, ça reste très, très particulier. C'est Daniel ou le jeûne des secrets de Dieu révélés. Le secret va passer, le prophète va passer par une agonie, un combat selon Éphésiens chapitre 6. Quand l'apôtre Paul nous dit ceci, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre les principautés, des autorités, des dominations et des esprits dans les lieux célestes. Il faut connaître la nature, finalement, de ce combat spirituel. Autrement, on est perdu d'avance. Et dans Daniel chapitre 10, on y retourne dans le livre, au chapitre 10, et vous allez voir ce qu'a pu être cette agonie du prophète. Versets 1 à 3, chapitre 10, versets 1 à 3. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, la parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est la véritable annonce une grande calamité. Voyez, révélation des secrets. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision, parce que c'est Dieu qui lui avait donné l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Vous traduisez dans le jeûne, hein ? Ça revient à peu près à la même chose. Le sac et la cendre. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Au verset, si on va aller plus loin, verset 8, il nous est montré un peu les conditions de ce jeûne. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Verset 15 maintenant, je lis en diagonale. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et là, il a eu la vision finalement, de la révélation que Dieu voulait lui donner. Nous voyons que derrière tout cela, le jeûne de Daniel, est un enseignement. Il reçoit la vision et la compréhension de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la guerre cosmique dans le monde de l'invisible. Parce qu'on n'est pas dans un monde neutre, hein. Il y a le monde des hommes, avec tout ce qu'est l'homme, en bien et en mal. Mais il y a aussi un monde invisible qui est fait d'un surnaturel divin et d'un surnaturel mauvais, satanique, diabolique. C'est ce qui explique finalement les raisons des malheurs des hommes. Normalement, il ne faudrait pas le dire, mais moi je le dis, parce que Jésus l'a dit. Et vous avez remarqué avec moi, il est question, parce que vous connaissez bien votre Bible, il est question du chef de... Il est question, donc je retrouve la chose. Il est question du chef du roi de Perse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme ? Dans ce passage, que je reprenne tout simplement, Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, me voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Bon, c'est un langage un peu qu'il faut décoder. Mais quand il est parlé du chef du roi de Perse, il y avait là naturellement des autorités royales, impériales, de la Perse de l'époque. Mais il y avait derrière ces autorités, comme derrière les autorités d'aujourd'hui, des puissances mauvaises et des puissances diaboliques, de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme, et bien d'autres choses. Et il fallait vaincre non seulement le roi de Perse, mais il fallait vaincre et dénoncer les puissances qui étaient derrière et qui tenaient ces autorités civiles, politiques, ou tout ce que voudrait, j'en dis pas plus, et qui tenaient finalement dans la servitude, le peuple d'Israël, dans l'exil et dans la déportation. Dans cette dimension, on ne s'improvise pas, écoutez bien, jeûneur, parce qu'on touche à des choses qui sont beaucoup plus dangereuses qu'on le pense. On ne s'improvise pas jeûneur, car un extrême danger guette le mystique imprudent. Mes frères et mes sœurs, faites attention au mysticisme, à l'ascétisme, parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer. Dans 2 Colossiens, il est dit au chapitre 2, je relis, je cite, et c'est Paul qui le dit, hein, c'est parce qu'il devait savoir certainement quelque chose sur la question, il dira ceci au verset 18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et même s'il y a toute l'apparence d'humilité, de piété, de religiosité et tout ça, il est ajouté, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte véritable, volontaire, pardon, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Il y en a un qui exploite finalement toutes nos faiblesses charnelles. Et s'il peut nous conduire dans une pseudo-spiritualité, il ne va pas gêner. Nous faire avaler des fausses doctrines. Nous amener à vivre des choses par expérience, parce que ce n'est pas l'expérience qui compte. L'expérience que nous faisons dans notre vie ne vient que confirmer la parole de Dieu. On est bien d'accord? On n'est pas des chrétiens uniquement d'expérience. C'est bien qu'il y ait l'expérience. C'est ce qui fonde la foi et c'est ce qui la tient. Mais on vit parce que Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre. Et on n'abdique pas notre intelligence pour partir, je ne sais dans quel... Parce que c'est ça ce qui donne les sectes. C'est ça ce qui donne tous ces gens qui sont complètement dévoyés, qui sont là, qui se croient, qui veulent faire l'ange et qui ne sont que quelque part à faire les démons. Hein, avec toutes sortes de choses qui sont épouvantables. Le jeûne conduit par l'esprit en trouve la présence du divin, mais l'adversaire guette. Et moi j'ai souvent entendu des expériences d'hommes de Dieu, de pasteurs, où ils ont dû s'arrêter à certaines frontières parce qu'après ça devenait dangereux. Troisième exemple, Luc, chapitre 4, versets 1 à 2, on va le relire. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus tenté en toute chose sans commettre de péché. » Et ça, je tiens à le dire en avant-propos du commentaire. « Sans commettre de péché. » On l'a appelé le jeûne de la quarantaine ou le jeûne de la tentation et des défis diaboliques. Comme pour Daniel, défis diaboliques. Mais Jésus est rempli du Saint-Esprit alors qu'il vient de sortir du Jourdain, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, il va se trouver confronté là, avec cette rencontre terrible. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Et si nous maintenons notre niveau de remplissage, excusez-moi, hein, c'est pas très beau, mais notre plénitude, et nous demandions à Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit, on ne se fera pas avoir. Par le diable, en tous les cas. Et nous voyons que Jésus, donc, est rempli de l'Esprit de Dieu. Et avant la qualification suprême, pourquoi il est passé par le désert? C'est parce qu'il allait recevoir, finalement, la qualification de Dieu pour être le Messie, pour être loin, pour les miracles, pour les paroles qu'il donnera, des paroles qui sont, comme jamais homme n'a parlé d'ailleurs, hein, remplies de l'amour de Dieu. Donc, à ce moment-là, il va être confronté dans ce désert de la quarantaine, eh bien, à cette qualification suprême, et le jeûne du Seigneur le conduit à 3 offensives redoutables, morales et spirituelles. La première, vous la connaissez, c'est une tentation physique. La deuxième, c'est une tentation morale. Et la troisième est d'un autre ordre, c'est une tentation spirituelle. Et le diable a voulu le confronter avec ça, parce que Dieu voulait le qualifier, et le diable voulait le disqualifier. Et ça, c'est le combat que nous avons les uns et les autres. Les uns et les autres. Voilà, tout simplement. Jésus s'isole, il ne mange rien, pour s'adonner entièrement à la prière et la méditation et prendre les ordres de son Père. Ouais. Vous vous souvenez, quand il était enfant, je fais la volonté de mon Père, je prends les ordres de mon Père. Et là, c'est le moment, justement. Et il va voir à ce moment-là, pendant ces 40 jours, ses ordres de son Père céleste avant d'entreprendre cette tâche surhumaine Vous savez, quand on est appelé à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, ministère pastoral ou évangéliste ou autre chose, ou missionnaire, ou d'une manière ou d'une autre, même quelquefois beaucoup plus caché, hein, parce qu'il y a des services dans l'Église qui sont quelquefois très discrets, vous n'en entendrez jamais parler, et ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Non seulement parce qu'ils donnent des, ou ils donnent pas, des dons spirituels en public, hein, tels que les dons vocaux, mais il y a aussi les dons de puissance, et il y a les dons de révélation. Mais ça ne se sait pas. On dit quelquefois, il n'y a pas de dons dans l'Église. Eh bien, moi, vous venez me voir, et bien, moi, je vous montrerai qu'il y en a dans l'Église. Et vous ne le savez pas, parce que vous ne le discernez pas. Je peux vous dire que l'Église, elle serait déjà en miettes, hein, si certains dons n'avaient pas fonctionné, ne serait-ce que ces quelques dernières années. Mais on n'a pas besoin de le dire, hein. Et moi, j'ai pas besoin de crier sur les toits comme un témoignage de gloire, je ne sais à la gloire de qui, pour dire, eh bien, il y a ceci et cela qui s'est fait, tout ça. Non, s'il y en a un qui le sait, c'est le Seigneur. Restons modestes et restons humbles et restons discrets. Parce que je crois qu'on est en train de virer dans toutes sortes de choses dans nos mouvements, un petit peu la gloriole en disant, nous avons fait tel, nous avons remporté tel triomphe, telle victoire. C'est le triomphe de qui? Je suis assez carré, de ce côté-là. Et nous voyons que le diable lui fait face à Jésus. Alors Jésus s'isole, et là il reçoit les ordres de son père, pour accomplir cette tâche surhumaine. Dieu appelle, et le diable dissuade, et la lutte est gigantesque. Là où Adam a été vaincu au jardin d'Éden en mangeant, vous souvenez, il a mangé quoi? Le fruit défendu. Jésus, lui, en vainqueur au désert, va remporter la victoire. Tout simplement. Bien qu'ignorant ou téméraire, le chrétien qui se figurerait échapper aux tentations en se réfugiant au désert du jeûne ne fait que se tromper lourdement. Parce que nous voyons que Jésus, en se réfugiant dans le désert du jeûne, a été tenté. Alors si vous faites mieux que le Seigneur, vous viendrez me voir parce que vous serez vraiment un phénomène. De même, beaucoup d'orgueil chez l'enfant de Dieu qui s'imaginerait rechercher et trouver appel et vocation, don et puissance spirituelle en jeûnant. Ça, on vous l'a dit, mais moi, j'y crois pas. Parce que l'appel de Dieu, c'est autre chose. Il sera confirmé après. Mais si vous dites, oh ben, le Seigneur va certainement me donner un don le plus extraordinaire qui soit, et que si vous voulez jeûner pour ça, méfiez-vous, parce que l'appel, il est avant. La voix de Dieu s'est fait entendre avant, cela. Et si vous le faites pendant 40 jours, 40 ou 30 ou 50, ça n'a pas d'importance. Quand on n'est pas appelé par Dieu, on n'est pas appelé par Dieu, c'est tout. C'est pas parce que vous allez jeûner en disant, Seigneur, donne-moi un don, donne-moi quelque chose de puissant, parce que je voudrais être que ceci et cela. Si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas appelé. Vous êtes appelé au salut. Et puis avec ça, si on est humble et que l'on marche avec le Seigneur, il nous donnera. Mais vous savez, quand on sait gérer les petites choses, Dieu nous en donnera des plus grandes. En réponse à notre foi et à notre humilité. C'est comme ça que ça marche. C'est important. Attention, quelqu'un guette le faux pas dans ce domaine-là. Et si ce n'est pas Dieu qui donne, l'adversaire est capable de se substituer au Seigneur pour nourrir notre vanité. Quelquefois, on a vu des dons qui ont été donnés, ce n'étaient pas des dons de Dieu, c'était des dons travestis. Et ça se reconnaît à quoi? À leurs fruits. C'est pour ça que Jésus nous laisse l'enseignement dans le sermon sur la montagne. Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient à vous en disant « Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, j'ai eu ceci, j'ai jeûné pour avoir ceci et cela. » Mais tout ça, c'est du poudre de perlimpinpin qui en met plein la vue aux gens, dans des paroles, même dans des actes, dans des œuvres, mais la vérité, elle ne se trouve pas dans les œuvres, la vérité, elle se trouve dans les fruits. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut être emmené dans toutes sortes de choses, hein, et l'Église a besoin d'être avertie, elle a besoin d'être aguerrie, elle a besoin d'être informée de tout cela. C'est pourquoi il y a tant de choses qui sont troublantes autour de nous. Des gens qui marchent les pieds en l'air, qui marchent au plafond, etc. Alors les gens disent, ah bah oui, mais ça vient de Dieu, mais tout ne vient pas du Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 5 et verset 1er, il nous est dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Et ça, on ne sait plus le faire. Alors c'est pour ça qu'il y a tant de choses qui s'en vont dans tous les sens. Naturellement, ça se comprend. Et c'est ce qui a été l'objet de la deuxième et la troisième tentation de Jésus dans le désert. Si tu m'adores, je te donnerai cette puissance, je te donnerai cette richesse, je te donnerai tous ces royaumes de cette terre. Et Jésus a dit non. Hein. Et puis il y a également la troisième tentation. Si tu montes du haut du temple et que tu te jettes en bas, eh bien des anges viendront pour te porter sur leurs mains. Tiens, essayez, tiens, vous montez en haut d'un immeuble et vous allez voir, Seigneur, je me lance, tu me rattrapes. Bon, je vous retrouve à l'hôpital, aux urgences. Et puis il y a ce curieux verset sur lequel je voudrais terminer, brièvement. Matthieu chapitre 17, verset 21. On va le revoir parce que des questions ont été posées sur le sujet. Et si vous voulez bien le comprendre, c'est comme ça, je pense, que les choses peuvent être conduites. Ça n'enlève rien quand même à la force de ce verset. Hein. On est d'accord, verset 21. Donc je vous ai dit, c'est Matthieu, excusez-moi. Matthieu 17, verset 21. Jésus dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ce verset est souvent compris comme une preuve de la supposée puissance du jeûne. C'est comme ça que je l'ai interprété très longtemps. Sa signification réelle étant que c'est plutôt la marque profonde de compassion pour celui qui est la victime d'une telle oppression et non pas le désir de chasser les démons. Qu'est-ce que l'on veut ? C'est de dire, eh bien, j'ai jeûné et je suis parvenu à chasser le démon. Ou est-ce que Dieu m'a conduit dans ce jeûne par compassion, par amour pour celui qui souffre dans ses liens de tourments occultes, de tourments et d'oppression pour que lui soit libéré. Qu'est-ce qu'on veut ? La glorification de la puissance ou véritablement apporter cet amour et témoigner cet amour divin ? Nous sommes bien des vases fragiles pour contenir la puissance de Dieu, n'est-ce pas ? Parce que l'homme se récupère toujours en disant « c'est moi », alors que Dieu nous appelle à le glorifier, lui. Et vous allez voir que les choses peuvent être comprises de cette manière. La délivrance de l'opprimé est plus importante que la glorification d'avoir chassé un démon. Eh oui, faire reculer un démon. Jésus, à l'évidence, était animé de cette compassion-là, alors que les disciples dans le texte ne l'étaient pas. Vous savez ce qu'ils faisaient ? Pendant que le père apportait cet enfant lunatique, ils étaient en train de discuter avec les scribes et les pharisiens, les sadducéens ou les pharisiens. Ils discutaient, mais ce n'est pas en discutant qu'on avance, c'est en croyant à ce que Dieu nous dit, naturellement. Ce n'était pas le cas des disciples, ils n'étaient pas remplis de compassion. Hein. Et ils se disaient, mais comment on va faire pour délivrer cet enfant ? Jésus est arrivé. Ils étaient, les disciples, beaucoup plus motivés d'être plus forts que le démon, que finalement l'amour qui devait les animer. Parce que moi je crois que Jésus avait la puissance, mais il avait encore par-delà sa puissance, il avait l'amour pour cet enfant qui était épileptique, qui était lunatique. D'ailleurs, devant le silence du texte, parce que faut fouiller un petit peu, rien n'est dit que Jésus ait jeûné pour ce démon-là. Non ? Vous avez vu les textes avant ? Rien ne nous a dit. Il ne nous a pas dit qu'il avait jeûné pour ça. Parce qu'il faut faire attention à ce que Jésus nous dit également dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie et de ce que non pas vous avez chassé les démons, ressuscité les morts et guéri les malades. Que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Il y a une dimension encore beaucoup plus grande que cela. Conclusion. Le jeûne, la prière, la foi. Le temps, le nombre de personnes à jeûner, la répétition des mots, des prières, cette expression que nous entendons quelquefois, « Alors, j'ai prié si longtemps, ou j'ai beaucoup prié, ou j'ai jeûné très longtemps. » Ça devrait rester quelque chose de très secret entre Dieu et la personne. On est d'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et dans une église, dans nos églises, quand on entend ça, je pense que, excusez-moi, mais on n'est pas dans la note. On n'est pas dans la note. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des frères, des sœurs qui sont venus me voir et me dire, ah ben, vous savez, moi j'ai jeûné, j'ai ceci et cela, bon, je vais bien l'entendre, je suis tout seul, bon, ça va, c'est bien. Mais quand on commence à le dire dans un témoignage publiquement et tout ça, vous savez, on n'est plus dans l'esprit de l'Évangile à ce moment-là. Non, non, racontons ce que le Seigneur fait, mais pas ce que nous faisons, nous. Alors, tout cela laisse penser que l'exaucement est lié à la quantité ou au mérite de l'avoir fait, d'avoir jeûné. Dieu exauce par pure grâce, je le rappelle encore une fois. Par contre, la clé et le secret, eh bien, si nous reprenons Luc au chapitre 17 et au verset 6, eh bien, nous allons voir, c'est une clé parmi d'autres, hein, naturellement. Luc chapitre 17 et verset 6, où il est dit cette parole. J'espère que je ne me suis pas trompé de référence, ce qui semble être la réalité. Ah oui, c'est verset 5, voilà. Je vous avais dit, verset 6 et verset 5. « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » La clé, c'est la foi, mes frères et sœurs. C'est la foi. La foi se suffit à elle-même. Et si elle se suffit à elle-même, c'est que Jésus a pris l'unité de mesure la plus petite dans l'image d'un grain de sénevé. Il nous a pas parlé d'un charter ou d'un super tanker de je ne sais combien de milliers de tonnes. Il nous a parlé d'un grain de sénevé. Et avec ce grain de sénevé, ne serait-ce qu'avec cela, la plus petite graine qui existe, eh bien, nous serions capables de transporter les montagnes. Alors, mes frères et sœurs, c'est pas le jeûne, c'est la foi. Maintenant que vous mettiez du jeûne, que vous mettiez de la foi et de la prière dans votre jeûne, d'accord, mais faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Le jeûne est un support. Il n'est pas déterminant par lui-même. C'est comme s'agenouiller pour montrer une humilité. C'est comme frapper des mains pour dire, eh bien, nous sommes dans une joie intense. Ou toutes sortes de choses. Ce sont la gestuelle religieuse, tout ça, mes frères et sœurs. Excusez-moi, je suis peut-être en train de casser quelque chose. Je vais peut-être ressortir pendu. Mais moi, je suppose que dans l'Épître aux Galates, c'est ce qu'il disait. Hein. Paul écrivait à Galates à peu près la même chose. Hein. Le grain de sénévé. N'inventons pas des techniques humaines. Faisons confiance, parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation vivante, qui se passe de rites, qui se passe d'obligations, qui se passe d'astreintes, de postures, de recettes et de méthodes et autres formes de piété qui favoriseraient le fléchissement de Dieu à l'exaucement. Eh bien, le Seigneur n'est pas prêt de nous exaucer. On peut le faire très longtemps. Il y a des gens par millions qui le font dans les églises, dans des temples, dans des chapelles, partout, partout. Ils le font malheureusement dans l'ignorance de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Nous l'avons fait pendant des années. Et je crois que quand on reste dans la vie de l'esprit, alors en ce moment-là, on voit le ciel ouvert. Autrement, il a toujours été fermé. La seule chose où il s'est ouvert, c'est que le Seigneur m'a appelé au salut. Et après, j'ai découvert qu'il y avait une autre dimension. Et ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. Dieu vous a donné la foi, mais faites-la agir, votre foi. Et puis le reste, ce que vous y mettez, si vous voulez le faire en conscience, vous le faites, mais faites-le dans l'esprit. Faites pas par tradition. Ne le faites pas parce que on vous impose de le faire, mais faites-le avec un cœur libre et vous le faites pour la gloire de Dieu. Tout simplement. Simplement. La prière de la foi est un exercice spirituel spontané. Il est libre, il est naturel, qui témoigne de notre confiance et surtout de notre abandon entre les mains de notre Dieu. Parce que lui, il a déjà tout préparé. Une dernière petite pensée. Comment des enfants, nos enfants, comment des enfants obtiennent-ils ce dont ils ont besoin de leurs parents? Est-ce qu'ils font la grève de la faim? Est-ce qu'ils font le siège de la maison avec une banderole? Je veux des cadeaux à Noël? Qui seraient que des manifestations, des slogans, des revendications, y compris avec des mortifications ou des provocations? Est-ce que c'est comme ça que vous donnez à vos enfants? Ben vous ne le faites pas, parce que moi, quand un... Enfin, moi, j'en ai plus, hein, je suis... Mais j'en ai eu, des enfants. Et quand ils faisaient ce genre de manifestation, hein, moi, je faisais venir les CRS. Avons-nous déjà dit que le vrai jeûne agréé de Dieu est une affaire d'amour et de confiance? Et le principe royal se termine sur ce verset dans Romains au chapitre 14 et au verset 16. Je l'aime beaucoup. Romains chapitre 14 verset 6, pardon, où il est dit ceci. « Que celui qui distingue entre les jours agisse ainsi pour le Seigneur. » Jour de jeûne ou jour de nourriture. « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Car en effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Si donc nous vivons, soit que nous mourions, soit que nous sommes au Seigneur, si Christ est mort et revenu à la vie, afin de nous dominer sur les morts et sur les vivants, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? » Ça se termine comme ça. Mes frères et sœurs, devant Dieu, nous avons tous la liberté de faire avec notre conscience. Et comment le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu éclairée nous conduira ? C'est ça la liberté. Là où est la liberté, nous dit Paul dans Corinthiens, 2 Corinthiens me semble-t-il, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ne jugeons pas les autres. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.